RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules, vous nous suivez en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, le canal 23 de la TNT. Les grandes gueules qui vous envoient tout au long de la semaine à Europa Park, élu 10 fois meilleur parc de loisirs au monde. Europa Park, c'est l'univers aquatique rue Lantica, c'est 100 attractions et spectacles, c'est le nouveau quartier sur le thème de la principauté de Monaco. Vous voulez aller à l'Europa Park durant 2 jours pour 4 personnes, vous envoyez Europa par SMS au 732-16, Europa par SMS au 732-16. Le tirage au sort est dans quelques minutes et le gagnant, on le prend en direct dans les grandes gueules vers 11h20. On accueille maintenant notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Notre invité, c'est Jean-Louis Chilansky, l'ancien président de l'Union française des industries pétrolières, l'UFI. Bonjour, monsieur Chilansky.
Bonjour.
Ça serait une bonne idée de plafonner le prix des carburants à 1,70€ le litre, comme le propose la CGT ?
Non. C'est pas une bonne idée.
Pourquoi ?
C'est pas une bonne idée parce que, je vous donne un exemple. On importe 50% du gazole aujourd'hui. C'est-à-dire, on va sur le marché, on importe le gazole. Si le prix en France est inférieur au prix d'importation, on n'importera pas. C'est aussi simple que ça.
Personne ne nous vendra du gazole.
Ben oui, donc il y aura une pénurie. Prix bloqué à un prix inférieur aux cotations internationales, c'est de la pénurie. C'est absolument inévitable.
Et alors, pourtant, Total a bien plafonné ses propres prix.
Oui, alors Total, c'est un cas à part.
Mettez-vous bien dans le micro, Jean-Louis, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà.
Total, c'est un cas à part. Parce qu'ils produisent du pétrole brut. Et donc, ils ont une marge de manœuvre, en quelque sorte, du fait que le prix du pétrole brut a augmenté et qu'ils font de l'argent sur le pétrole brut. Donc, ils financent les pertes qu'ils ont en distribution avec les profits qu'ils font en amont.
Oui, donc pour eux, c'est quand même une bonne opération.
Non, j'ai pas dit que c'était une bonne opération. Ils perdent de l'argent en distribution, mais ils peuvent se le permettre, on va dire ça comme ça. Si vous êtes distributeur indépendant, vous allez importer votre gazole depuis Rotterdam. Si en France le prix c'est 1,70 et que vous et le prix à Rotterdam c'est 1,90, ben vous n'importez pas.
Justement, vous pouvez expliquer parce que comment est fixé le prix du gazole, le prix de l'essence avant qu'il arrive à la pompe? Comment ça se passe? Quel est le circuit en fait?
Le prix n'est pas fixé, c'est un prix de marché.
Alors comment le marché fixe le prix alors?
Ah ben le marché c'est l'offre et la demande, c'est aussi simple que ça. Enfin, je vous ramène à Béaba en quelque sorte, à Rotterdam, il y a des traders qui achètent, qui vendent, et les prix sont faits à la minute, à la seconde. Mmh. Ils sont complètement transparents.
Et ça dépend de ce qui se passe au Moyen-Orient.
Alors effectivement, s'il y a une tension, il y a moins de produits, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix montent. C'est ce qui est en train de se passer.
Oui, mais nous, notre pétrole, il vient essentiellement de Norvège, d'Algérie, et assez peu des pays du Golfe. Alors pourquoi ça monte autant en France ?
Parce que c'est pas que ça monte en France, c'est que la cotation du Brent, la cotation internationale, qui donne là, c'est une mercuriale en quelque sorte. C'est la même qui s'applique en France, en Allemagne, en Angleterre, partout. Et donc, on subit en quelque sorte la tension qu'il y a aujourd'hui sur le marché du pétrole et sur le marché des produits.
Je reviens sur le blocage des prix parce que on l'a fait en France en 1990. C'était la première guerre du Golfe.
C'est vrai.
Et le gouvernement socialiste de l'époque avait bloqué les prix.
Oui, ben ça a pas duré longtemps quand même, hein, parce que c'est pas vivable. Et puis à l'époque, les circonstances étaient complètement différentes. Mais la réalité du blocage, c'est-à-dire la réalité de faire des prix qui sont inférieurs aux cotations internationales, ça ne marche pas.
Et sauf. C'est la fausse bonne idée.
Ouais, c'est une fausse bonne idée. C'est une idée très populiste. On bloque les prix et puis on verra après. On essaye. On essaye. On met le gazole à 2€ ou à 1,90 et on regarde ce qui se passe. Dans 8 jours, dans 10 jours, il n'y a plus de gazole en France.
C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à en acheter sur les marchés et approvisionner les pompes.
C'est exactement ça.
Là, justement, il faut rappeler une chose. Là, il y a 20% des pompes, essentiellement totales, qui sont à sec. Mais ça ne veut pas dire qu'on manque de pétrole.
Alors ça, c'est un point essentiel. C'est le cas de le dire. Hein. C'est un point essentiel. Il n'y a pas de manque de produits. Il y a simplement eu un problème de logistique. Je vais vous donner un exemple. Il vaut ce qu'il vaut. Si les gens se ruent sur les pâtes et le riz, eh ben, en rayon, il ne va pas y en avoir. Au bout d'un moment, les magasins vont être dévalisés. Et c'est ce qui s'est passé avec les stations, en particulier les stations Total. Les gens se sont précipités sur les stations Total parce que c'était moins cher. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de produits dans les dépôts.
Et on en a toujours dans les dépôts, là.
Ouais. Évidemment.
Combien on en a d'ailleurs?
Aujourd'hui, on a 2 mois de stock parce qu'on a libéré les stocks stratégiques pour un peu moins d'un mois. Donc, on a des stocks de réserve, en quelque sorte. C'est pas un problème de manque de produits. C'est un problème de logistique. La logistique, elle n'est pas complètement flexible. Quand il y a une demande aussi forte que celle qu'il y a eu, il y a des ruptures.
Pourquoi le diesel, le gasoil, augmente plus vite que l'essence en ce moment?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Tout simplement parce que il y a un déficit de gasoil. Je vous disais tout à l'heure que la France, elle importe 50% de son gazole, l'Europe, sous forme de produits finis, pas sous forme de pétrole brut. L'Europe importe 40% de son gazole sous forme de produits finis, pas de pétrole brut. Et là, vous avez tout un tas d'opérateurs qui vont sur le marché, qui cherchent du gazole. Il faut revenir un tout petit peu en arrière, on n'achète plus de gazole en Russie. C'est les sanctions. Donc on est allé vers le Moyen-Orient. Et là, aujourd'hui, au Moyen-Orient, on a beaucoup de mal à trouver du gazole. Donc, le prix du gazole monte comme ça.
Oui, mais alors là, on a beaucoup de mal à trouver du gazole. Il y a des gens qui vont dire, attendez, ils viennent nous dire qu'on a des stocks. Non, oui. Et ils viennent nous dire qu'on a du mal à trouver du gazole. Alors, est-ce qu'on a
Il y a une tension sur le produit. Il y a beaucoup d'acheteurs et pas tellement de vendeurs. Donc, les prix montent. C'est pas qu'on n'a pas de produit. C'est juste qu'il y a une tension sur ce produit-là en particulier.
Alors, on continue la discussion. Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie.
Alors, j'aimerais un peu changer de sujet, parce que ça fait quelques années que je lis vos textes et que je suis vos interviews sur les conseils de feu mon ami Jean-Michel Quatrepoint. Et justement, vous aviez beaucoup écrit à un moment sur la France et le pétrole de schiste, le gaz de schiste, l'omerta autour de ce sujet. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et selon vous, qu'est-ce que ça pourrait changer pour les Français?
On est nulle part.
Sachant que du pétrole de schiste, on en achète.
Bah évidemment.
Voilà, on en achète. À nos amis américains, notamment. Bah
évidemment. Tout le pétrole qui vient des États-Unis, c'est du pétrole de schiste. Tout le gaz qui vient des États-Unis, 90% du gaz liquéfié qui vient en France, c'est du gaz américain, gaz de schiste.
Donc on n'en veut pas chez nous, mais on l'achète ailleurs.
Exactement.
Hypocrisie.
Et ça pourrait vraiment changer la donne, sinon...
Alors écoutez, ça c'est une très bonne question. On ne sait pas.
Puisqu'on ne prospecte même pas.
Bah, on ne prospecte même pas.
Il paraît que sous nos pieds, c'est-à-dire en région parisienne, il y aurait de gros potentiels de gaz de schiste.
Oui, mais je ne peux pas vous dire oui ou non.
On ne sait pas. On empêche même la recherche.
Le gouvernement français, dans sa grande sagesse, a décidé d'interdire toute exploration d'hydrocarbures, pas seulement schiste ou pas schiste.
Même conventionnel.
Donc la France, c'est...
C'est-à-dire que c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on pourrait devenir, nous, la France, un pays producteur d'hydrocarbures. Et ça changerait quand même complètement la donne.
Totalement.
Et on se refuse.
Ben on se refuse pour des raisons
idéologiques,
philosophiques.
Ça va être de ta faute, Jean-Loup.
Idéologique.
Mais techniquement, dans les autres pays, parce qu'il y a 15 ans, quand on a commencé à en parler, je me souviens, on en parlait beaucoup en 2012-2013, au moment du rapport Gallois, je crois que vous avez écrit aussi en 2015 sur le sujet. Voilà, est-ce qu'on a trouvé à l'étranger des méthodes d'extraction plus propres? Parce que la France, contrairement au Canada, aux États-Unis, c'est un plus petit pays. Donc, si on extrait avec des procédés qui écologiquement sont contestables, est-ce qu'on extrait de manière plus propre ou pas?
Les problèmes écologiques ont été résolus.
Par rapport à 2012-2013, ils ont été résolus. On extrait de manière plus propre.
C'est le fantasme de la fracturation hydraulique, c'est du forage de pétrole, maintenant extrêmement banal.
Mais ce n'était pas le cas il y a 15 ans.
C'est fou qu'il n'y ait aucun responsable politique, parce qu'on approche d'une présidentielle, qui se dit, tiens, il y aurait peut-être un truc à faire.
C'est même plus dans le débat. C'était dans le débat.
Il y a trois zones qui pourraient être prospectées. C'est le bassin parisien, le bassin d'Aquitaine et le fossé rhénan. Ce sont, voilà, ce sont les trois zones.
On m'a dit aussi quelques terres à Nice, voilà, pas très loin
là,
de chez
justement,
toi aussi,
mais là, il y aura un moratoire et un décret local qui empêchera, bien évidemment,
dans ton jardin. Tu vas peut-être devenir milliardaire.
Peut-être.
Dans les hauteurs de Nice, apparemment, il y a un gros gisement, là.
Alors,
devoir,
allez-y.
On n'en sait rien.
Exproprier.
Peut-être, peut-être.
C'est spéculatif.
Il faut y aller. Il faut forer.
Il faut forer.
Il faut forer. Il faut regarder s'il y en a. Et puis, s'il y en a, on exploite. Je vais vous dire, là, on est entre nous. Je vais vous dire le fond
Personne n'écoute.
Je vais vous dire le fond de la question. Le fond de la question, c'est qu'aux États-Unis et au Canada, les gens sont propriétaires du sous-sol.
Oui.
C'est-à-dire que si on trouve du gaz de schiste chez eux.
C'est à eux.
C'est à eux. Et donc, ils gagnent beaucoup d'argent. Et donc, ils sont prêts à dire, on essaye. Et donc, il y a une pression, en quelque sorte, politique, pour, de la part des gens, des individus, etc., pour y aller. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est un désavantage. Si vous avez une maison et on vous dit, on va forer dans votre jardin...
On vous exproprie.
On vous exproprie, et donc, vous êtes... le système n'est pas du tout favorable... À ce genre.
Mais c'est quand même un sujet tabou, quand même, depuis tant d'années.
Ah, c'est un sujet complètement tabou. Mais la pression politique a été énorme à un moment donné.
On faisait des débats dans les grandes gueules là-dessus.
Ouais, ça a été énorme. Le gouvernement de l'époque, enfin Macron et Nicolas Hulot, ont plié complètement devant la pression politique et ils ont dit bon, c'est fini maintenant. On ne cherche plus du tout d'hydrocarbures en France. Et je vais vous dire quelque chose, on ne viendra jamais en arrière.
Ah bon ?
On ne viendra jamais en arrière. Le gouvernement qui aura le courage de dire on reprend la prospection de pétrole en France...
Oui. Il n'est pas né.
Il n'est pas né.
Bon, nous, notre pari, c'est le nucléaire, mais c'est le pari du général de Gaulle.
Oui.
Alors là aussi, on a voulu remettre en cause tout. Et puis finalement, on se rend compte quand même qu'on est bien content d'en avoir du nucléaire. C'est notre souveraineté.
C'est une chance extraordinaire.
Mais à un moment donné, on n'était pas dans ce débat-là. Je me souviens, dans les années 2015, 2016, 2017, quand on défendait le nucléaire, on était ringard, on était même réac.
Oui. Mais alors, ça, c'est...
alors aujourd'hui, au contraire, on s'en sort peut-être mieux que les autres grâce au nucléaire.
Ah, mais c'est une chance formidable. Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est décarboné. Donc vous n'émettez pas de CO2. Et la deuxième raison, c'est que vous n'achetez pas de gaz pour faire de l'électricité. Aujourd'hui, les pays qui achètent du gaz pour faire de l'électricité, ils ne sont pas bien. Et donc, la France a un avantage formidable avec le nucléaire.
Merci De Gaulle.
Question. Charles Consigny, Laurent Barthon-Martinez.
Demain, vous êtes Premier ministre de la France. Qu'est-ce que vous faites pour aider les Français à traverser cette crise du prix des carburants? Quelles sont les cartouches que vous avez en main et que vous actionnez?
Premier ministre de la France, c'est ça ?
Oui.
Ah bon, d'accord.
Okay. Ministre de l'énergie et des transports.
Je crois qu'il y a deux leviers. Il y a d'abord ce qu'ils font, c'est-à-dire des aides ciblées, les gens qui en ont vraiment besoin. Les transporteurs routiers, les infirmières, les taxis, les VTC, etc. Ça, je crois que c'est une bonne chose à faire, les petites entreprises. Et puis, il y a une deuxième chose que je mentionnais l'autre jour, c'est qu'on a en France aujourd'hui un système de certificat d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'on prélève de l'argent pour financer de l'isolation et des économies d'énergie dans le bâtiment. Et donc, c'est pas le moment. C'est juste pas le moment.
Ça représente combien ces certificats d'énergie sur le prix de...
Vous m'aviez déjà posé la question. En fait, c'est 15 centimes d'euros du litre.
Ah oui. Donc, si on supprimait ça, on en a 15 centimes au prix.
Mais là, il y a une pression écologique énorme. On va pas le certificat d'économie d'énergie, c'est sacré.
Vous avez une filière qui va vous dire et pas touche non plus. Quoi.
Voilà, exactement. Mais je dis pas qu'il faut
suspendre au temps de la crise.
Un moratoire.
Temporaire. Je dis pas qu'il faut les abandonner.
Et là, il y a pression pour ne rien toucher.
Oui, il y a pression. Je dis, c'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne idée. C'est une relativement bonne idée.
Mais ça rentre pas dans le budget de l'État en plus.
Ça rentre pas dans le budget de l'État. Donc, ça n'est pas dans le déficit.
15 centimes par litre.
C'est un circuit de financement.
Au total, combien ça représente ce certificat d'économie? C'est les 15 centimes et l'enveloppe globale.
Ils ont augmenté l'objectif, comme ils l'appellent, au 1er janvier.
Oui, au 1er janvier, ça augmente.
Effectivement, c'était 9 centimes d'euros avant et c'est 6 centimes de plus. Donc
c'est une bonne idée.
15 centimes. Quand le prix du pétrole est bas, pourquoi pas les gens, ils s'en rendent pas vraiment compte, les automobilistes s'en rendent pas vraiment compte, et donc on prélève 15 centimes, on finance des investissements d'économie. Mais là, en période de crise, on rend les 15 centimes aux automobilistes, tout simplement, pendant, comme vous dites, un moratoire, pendant un certain temps, on suspend. Voilà ce que je ferais.
Et donc, pourquoi ne le font-ils pas, selon vous ?
La politique. C'est-à-dire, si vous faites ça, il faut affronter, comme ça, les écologistes.
Qui sont pourtant très minoritaires dans la société.
Ouais, mais ils vont, dire.
Politiquement.
Ouais, c'est politique. C'est
Jean-Louis Chilanski, vous restez avec nous, l'ancien patron de l'Union française des industries pétrolières, justement, le gasoil. Est-ce que, effectivement, il faut que Total continue de garder ses prix à la pompe, continuer de les
pour
caper.
Pour l'instant, Total l'a suspendu. Hein.
Est-ce que il faut passer à un prix bloqué à 1,70 ou pas? Ça ne pourrait pas être possible. 32-16 pour en discuter avec les GG. Jean-Louis Chilanski reste avec nous. On va d'abord aller dans la Drôme, retrouver Arnaud. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour.
Assistant conducteur de travaux, c'est vous qui avez gagné le séjour à Europa Park, Arnaud. Félicitations.
Merci beaucoup, c'est incroyable.
Je vous en prie, vous êtes inscrit par SMS en envoyant Europa au 732-16. Vous gagnez 2 jours pour 4 personnes.
C'est mes enfants qui vont être aux anges.
Vous allez y aller sans attraction. Vous connaissiez déjà ou pas?
Alors oui, je suis alsacien d'origine, donc oui, je connais, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas mis les pieds, mes enfants ne connaissent pas.
Ah ben tant mieux, vous allez pouvoir leur faire découvrir. 10 fois meilleur parc de loisirs au monde, 100 attractions et spectacles, le parc Rulantica et le nouveau quartier, mon cher Arnaud, félicitations.
Sur RMC, beaucoup. Gagnez votre séjour à Europa Park Resort. Plus de 100 attractions et spectacles, un nouveau quartier dédié à Monaco et Rulantica, l'univers aquatique.
Trouver le meilleur moyen aujourd'hui de contrer la hausse du prix des carburants, que ce soit sur le diesel, l'essence, bref. Vous venez en discuter avec nous au 32-16. On est toujours avec Jean-Louis Chilanski, l'ancien président de l'Union française des industries pétrolières. Il est 11h20, vous êtes sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h, midi, les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC avec MAF Pro. Vous les pros, vous n'avez pas de temps à perdre. Nos équipes viennent chez vous pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Partout en France, appuyez-vous sur l'expertise MAF Pro pour protéger votre activité, votre matériel et vos salariés. MAF Pro, le réflexe pro.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. On se retrouve à midi sur RMC dans Estelle Midi avec Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Baptiste Desmontiers. On va parler de la CGT qui souhaite un prix maximum de 1,70€ pour les carburants. D'accord, pas d'accord. L'ouverture de la Foire du Trône la semaine dernière. Les fêtes foraines pour vous. Est-ce que c'est du plaisir ou de l'arnaque? Et puis bien sûr, le tu préfères, tu préfères estival, barbecue ou plancha? On vous attend au 32-16 pour en débattre. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Pourquoi tu veux changer de job?
J'ai envie de faire avancer ma carrière.
Et tu cherches quoi?
Alors je cherche un job de chef d'atelier dans une petite concession auto et surtout à moins de 10 km de la maison.
Oula, tu vas jamais trouver. Tu t'avances un peu trop.
J'avance vite même. Regarde, j'ai trouvé.
Mais comment t'as fait ?
Jobtomove.fr. Des milliers d'offres d'emploi, près de chez moi, dans les métiers des services auto, moto, camion, vélo.
Les métiers des services auto, moto, camion, vélo font avancer votre carrière sur Jobtomove.fr.
Intersport, engagé sport, engagé prix.
Les beaux jours reviennent. Je me suis inscrite à un 10 km. Enfin, inscrite. J'ai cliqué sur participer à 23h dans un excès de confiance.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG les grandes gueules sur RMC et RMC Story les grandes gueules avec aujourd'hui Jean-Louis Chilanski, c'est l'ancien président de l'industrie française, de l'Union française des industries pétrolières. Il y a un mot quand même sur la consommation. La consommation des carburants, elle baisse en France. Alors ça veut dire quoi? Que les Français sont raisonnables, ils font attention ou c'est dû à autre chose?
Non, il y a plusieurs phénomènes. Il y a d'abord les constructeurs automobiles qui ont fait des voitures qui consomment de moins en moins d'essence et de gazole. Et puis les hybrides qui consomment cette fois beaucoup moins, les voitures électriques qui perdent sur le marché. Donc la consommation, la tendance est à la baisse, mais malgré tout, c'est très lent parce que le parc automobile essence gazole est considérable. Et puis il y a une consommation des transports routiers. qui elle
96% des camions roulent au diesel encore.
Absolument.
Mais est-ce que vous croyez à un monde sans pétrole? C'est ça qu'on tente de voilà, c'est la direction qui est fixée, le monde sans pétrole.
La question, c'est quand. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir prévisible où on peut se passer totalement du pétrole. Non seulement dans les transports, mais dans la chimie, dans la pétrochimie. Pour faire fonctionner des bateaux, on a besoin de pétrole. Enfin, c'est pas un jour. Un jour, on trouvera des substituts divers au pétrole. Mais dans un avenir prévisible, je sais pas moi, 20, 30 ans, ça n'existe pas.
Donc ceux qui racontent ça, racontent des bobards.
Ouais, ils prennent... c'est un langage politique. C'est pas un langage de la réalité de la consommation. On s'en aperçoit bien aujourd'hui.
Oui.
On n'arrêtait pas de dire, on veut pas de pétrole, machin, c'est... Et puis en fait, d'un seul coup, il n'y a pas de pétrole et c'est une crise. Enfin, il n'y a pas. Il y a une tension sur le pétrole et c'est une vraie crise.
Et on voit que ça paralyse l'économie. Et on voit aussi qu'un Français sur deux continue à rouler au diesel. Parce qu'on nous avait dit, c'est à la fin du diesel. Enfin, le diesel est encore très présent en France.
Ah oui, il est très présent parce que le parc automobile est très dieselisé. Et c'est ce qui explique ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'on importe beaucoup de gazole pour ces automobiles.
On a David qui est au 32-16, qui est chauffeur poids lourd du côté de Donge. Vous voyez, il y a une raffinerie à Donge.
Absolument.
Bonjour David.
Oui, bonjour Elguizé.
Bienvenue David. Du côté de Donge, comment ça se passe, tiens, du côté de la raffinerie?
C'est un peu compliqué ce matin. Total, je pense qu'ils faisaient grève parce que normalement ils ouvrent à 5h, mais à 5h30 c'était toujours pas ouvert.
D'accord.
Et en fait à Donge il y a deux raffineries. Il y a une raffinerie Total et une autre raffinerie qui est c'est l'ancienne raffinerie de l'armée en fait.
Oui.
Et là en ce moment, ce matin, normalement la moyenne c'est 180 camions et là on est à plus de 300.
Ah, ils sont bloqués ou c'est la queue pour aller charger?
Là en fait il y a beaucoup de camions en fait. Et là j'ai attendu 2 heures pour charger.
Oui, pour réapprovisionner, parce qu'il y a eu le week-end de Pâques. Maud Bréjon, ce matin, disait qu'il y avait 900 camions qui étaient partis aujourd'hui pour réapprovisionner toute la France, et notamment les stations Total.
Oui, nous allons nous demander pour travailler lundi. Total nous a réquisitionné, mais il y a certains qui n'ont pas voulu, parce que sinon ça décale la semaine. Donc certains ont roulé, mais pas d'autres.
Ouais. D'ailleurs, restez avec nous, Jean-Luc Chilinski. Est-ce que Total doit prolonger son dispositif de plafonnement des prix qui prend fin aujourd'hui?
Alors ça, c'est une question extrêmement difficile. C'est une question. Est-ce que Total va ou ne va pas?
Est-ce qu'ils peuvent? Parce qu'il y a une pression politique là.
Hein, sans aucun doute, il y a une pression politique.
C'est 30%
très forte.
Des stations-service Total en France.
C'est ça, exactement. Et ils sont pris entre deux feux, en quelque sorte, la pression politique dont vous parlez, et puis une certaine attente de la part des automobilistes. Mais d'un autre côté, prolonger là, on s'arrête quand? Et ça, c'est...
Un peu prisonnier de leur opération.
Exactement. Et donc ça, c'est vraiment une décision pour le président de Total.
Merci David d'avoir été avec nous et prenez votre mal en patience parce que j'ai l'impression que ça va durer du temps. Hein. Merci, salut David.
Laura,
question?
Oui, moi j'ai une question. Ça représente tout ce qui est bloqué là actuellement dans le détroit d'Ormuz, ça représente en pourcentage combien de pourcents des approvisionnements? Alors pas seulement en France puisqu'on parle du cours du pétrole, donc sur les approvisionnements mondiaux.
Ça c'est la question clé. Ormuz, c'est 15%, un peu plus peut-être, de la consommation mondiale de pétrole qui passe par ce détroit, qui vient d'Arabie Saoudite, du Koweït, de Bahreïn, etc. Le monde ne peut pas vivre avec 15% de pétrole en moins. C'est aussi clair et simple que ça. Donc, à un moment donné, il faudra trouver une solution. Je ne sais pas laquelle, mais le monde ne peut pas vivre avec 15% de pétrole en moins. On ne peut pas réduire sa consommation. Il y a des stocks stratégiques qu'ils ont libérés, on en parlait tout à l'heure. Il y a 3 mois de stocks stratégiques sur l'ensemble de la consommation. Donc, il n'y a pas de risque de pénurie. Il y a du produit. Mais à un moment donné, il faudra trouver une solution pour que ce détroit d'Ormuz laisse passer des pétroliers.
Mais voilà, mais en fait, c'est parce que je me fais un peu porte-parole de tous les gens qui sont comme moi, qui connaissent pas vraiment tout le circuit. L'Iran. Et puis quand monsieur me dit que ça devient très compliqué de trouver du gasoil, c'est un truc que j'apprends. Je savais que voilà, je
sais que c'est que de l'essence.
Je sais que c'est l'énergie fossile, que plus on en prend et moins il y en a, ce qui est pas quelque chose qui se renouvelle. Mais et voilà, et de la même manière que de me dire qu'avec si on se passe que dans ta tête tu te dis mais attends, comment le prix de mon plein il peut doubler avec seulement un problème sur 15% de l'approvisionnement. Mathématiquement, on t'arrive pas à comprendre, mais quand là vous nous dites que avec 15% en moins, on peut pas tenir et que c'est pour ça que les prix flambent à ce point-là, c'est quelque chose qui est entendable et qui est compréhensible pour l'ensemble des Français. Chose qui, par exemple, n'a pas été dite par nos gouvernements. À croire qu'on nous prend pour des imbéciles, qu'on peut pas comprendre quelque chose que vous nous expliquez d'une manière extrêmement simple. Et ma deuxième question, pardon, je vous ai coupé, mais comme ça, après, vous aurez tout loisir à me répondre. Il faut aussi expliquer aux gens comment, si tout devient compliqué, si le baril flambe, comment Total arrive à dégager 1 milliard?
Ça, c'est une autre question. Ce milliard de Total, c'est une autre question. Ils ont parié. Ils ont parié et fait une opération de trading sur le pétrole. Ils ont acheté du pétrole à $70 le baril du côté de Dubaï, en pariant qu'il allait augmenter.
Avec la guerre.
Et donc, ils ont mis, je ne sais pas, peut-être quelques milliards sur la table, sûrement, et le marché est allé dans leur sens.
Donc vous confirmez dans un sens, pardonnez-moi, que ce sont des profiteurs de guerre, puisqu'ils ont senti la guerre arriver. Quand vous sentez la guerre arriver, vous prenez
une
décision. On achète au son du canon.
J'ai pas dit que c'était pas du business. Mon côté libéral dit que le jeu est cool.
Oui.
J'aurais juste aimé que ce coup ne se fasse pas sur le dos du gars.
Il y a du cynisme dans les affaires, toujours.
Non, mais est-ce que vous êtes prête, vous, à prendre le risque? Il y a un vrai risque. Parce que si, mais évidemment, il y a un vrai risque.
Jours avant, franchement, on savait que Trump, il allait tomber.
Si l'opération s'était complètement dégonflée pour une raison ou pour une autre, ils auraient perdu
Trump,
de l'argent.
C'est possible, parce qu'il est quand même assez changeant.
Bon, mais cette opération-là, on peut en discuter sur la philosophie du trading, etc. Mais c'est une opération particulière. C'est pas le rythme normal des opérations. C'est une opération tout à fait spéciale.
Merci Jean-Louis Chelensky d'être passé par les grandes gueules pour nous avoir donné toutes ces précisions. Ancien président de l'Union française des industries pétrolières. Il est 11h30, on va se terminer avec un dernier petit sujet de discussion. Alors là, vous allez voir, faites l'amour, pas la guerre. Pourquoi? Parce qu'en Lituanie, ils multiplient les boîtes de nuit. Ils veulent relancer les boîtes de nuit. Pourquoi ils veulent relancer les boîtes de nuit?
Pour que les jeunes se rencontrent,
se retrouvent.
Et fassent des bébés.
Flirtent, couchent ensemble et fassent des bébés.
Mais oui!
L'avenir de la natalité.
Jean-Louis, les boîtes de nuit,
exactement.
Est-ce que c'est la boîte de nuit? C'est au 32-16 qu'on en discute avec vous. Il est
18h25. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est midi moins 20, il nous reste un quart d'heure à passer ensemble au 32-16 en direct sur RMC et RMC Story avec Laura Vartan-Martinez, avec Charles Consigny, avec Jean-Loup Bonamy. Un quart d'heure à passer ensemble et je vous propose de revenir au 32-16, nous dire si vous avez de bons souvenirs en boîte de nuit, si ça vous a permis de connaître peut-être votre épouse qui a été devenue la mère de vos enfants ou votre compagnon qui est devenu ensuite le père de vos enfants, parce qu'à chaque fois, vous savez, faire un truc, machin. Alors, midi moins 20, on va vous dire pourquoi, parce que la Lituanie va relancer les boîtes de nuit.
Oui, il y a de l'ambiance, là.
La Lituanie lance des mesures inédites. Objectif, faire en sorte que la population refasse des enfants. Le gouvernement propose donc de rénover les discothèques pour favoriser les rencontres entre les jeunes.
Bah oui, parce qu'en fait, le gouvernement fait le constat que les jeunes se rencontrent moins qu'avant. On est beaucoup, quand on est jeune, sur les réseaux sociaux, chez soi, etc. Donc, il faut favoriser les rencontres entre jeunes et rien de mieux que la discothèque. Et d'ailleurs, en Lituanie, les discothèques existent encore, mais elles sont surtout fréquentées par des personnes plus âgées, d'âge mûr, qui n'ont plus besoin de faire des enfants. Donc, il faut que les jeunes générations... Bah, c'est toi, Laura. Il faut que les jeunes générations gens retournent en boîte, enfin qu'on recrée des boîtes, retournent, se rencontrent, se séduisent, fassent l'amour, des bébés, et que la Lituanie se repeuple. Alors le problème de la Lituanie, c'est le problème de tous les pays occidentaux, parce qu'on a exactement le même problème. Nous aussi, on fait moins de bébés. Donc est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il faut favoriser les rencontres ?
Multiplier, rénover, relancer les boîtes de nuit. Laura, boîte, t'as connu ?
Ah ouais, moi j'ai. Bah, en plus,
t'as bien donné.
Milieu de la restauration, autant te dire que on bossait tous, toutes les équipes du Triangle d'Or, on se retrouvait tous, du Meurice, du Plaza et tout, on se retrouvait tous, c'était génial. Mais par contre, c'est bizarre ce que tu dis, que justement les gens de mon âge, on est plus en fait. C'était une réflexion que je me faisais quand je suis sortie 2-3 fois cette année, ou même l'été où t'es un peu plus festif. À chaque fois, je regardais avec mes copines, je dis, mais putain, ils sont où les jeunes? Et en fait, on les regarde.
Les jeunes vont plus en boîte de nuit.
Alors, encore s'ils sortent quand même, mais sur la piste de danse, déchaînés, à s'amuser, à parler avec des gens et tout, c'est des gens de notre âge. Les jeunes, ils sont au bar avec leur téléphone. J'ai proposé plein de fois au petit cousin de mon mari de le faire sortir. Il me dit, non, nous, on veut pas sortir. En fait, c'est triste parce que je trouve que tu regardes en terrasse, moi, quand j'étais en école hôtelière, nous, premier rayon de soleil, personne prenait son RER pour rentrer chez soi, on se retrouvait tous en terrasse et on papotait et tout. Et alors, c'est peut-être une image, j'aimerais qu'il y ait des jeunes qui nous appellent pour me contredire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de liens sociaux entre la jeune génération maintenant.
Je suis pas... Donc toi, tu penses que si les jeunes couples ne fondent pas de famille, c'est aussi parce qu'il manque de lieux pour se rencontrer.
Il manque pas de lieux forcément, mais de liens sociaux. Après, je suis pas sûr qu'une boîte de nuit, ça peut être très cool, mais j'ai jamais.
C'était quand même l'endroit pour draguer.
Écoute, moi, dans toutes mes années jeunesse, j'ai ramené un mec de boîte et franchement, je ne regarde pas un souvenir ému. Je me suis réveillée le lendemain.
Parce que tous les mecs ont pris des râteaux.
Je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai fait ouah, qu'est-ce que c'est, Laura ? Qu'est-ce que t'as bu hier, mon Dieu ? Mais sinon, moi, en boîte de nuit, j'y allais avec mes copines en basket. T-shirt, jean, on venait pas là pour faire les pépettes, on venait danser, s'éclater, rentrer à 6h du matin avec le mascara qui a coulé, la couette comme ça, on venait s'amuser. Mais après, voilà, moi j'ai jamais dragué en boîte, j'ai jamais allé en boîte pour faire des rencontres.
Alors, boîte de nuit pour relancer la natalité.
Jean-Loup, vous y croyez ou pas ? Boîte de nuit.
Je raconte deux choses sur les boîtes de nuit. J'apporte deux informations sociologiques. La première, c'est que vous savez que justement, en France, le monde des boîtes de nuit est en crise. Il y en a beaucoup qui ferment parce que c'est moins fréquenté. C'est moins fréquenté par les jeunes. Et donc, moi, j'ai fait une enquête.
Je
suis l'homme de terrain du pays réel auprès de mes élèves qui ont 17-18 ans. Et certains, en effet, ont envie, dès qu'ils auront 18 ans, d'aller en boîte de nuit. Ça les attire, mais ils sont quand même nettement minoritaires pour une raison très simple qui est l'individualisme. C'est-à-dire, ils disent, mais monsieur, il y a un DJ, on peut pas choisir notre musique. Alors que si on fait une soirée entre potes, on choisit notre playlist. On a notre playlist, le concept de la playlist. Et donc, en fait, le caractère assez collectif de la boîte de nuit heurte aujourd'hui l'hyper-individualisme des gens.
C'est
la première chose. Mmh. Et la deuxième chose, je vais donner une petite anecdote sociologique. Vous intéressez parce que parler des jeunes, alors je sais pas jusqu'à quel âge on est jeune, mais en fait, moi j'ai fait des études, j'ai été normalien et tout. Je connais beaucoup de femmes qui ont fait des études de haut niveau. Qui ont tout sacrifié à leur carrière, soit dans l'enseignement, soit dans d'autres carrières, et qui, à 37, 38, 39, 40 ans, se retrouvent sans enfant, sans compagnon, et aimeraient bien avoir un enfant. Et en fait, j'ai discuté avec pas mal d'amis ou de connaissances féminines qui, en fait, à cet âge-là, entre 35 et 40, vont en boîte de nuit pour trouver un partenaire, mais c'est pas pour faire une rencontre, c'est pas pour trouver un mari, c'est pour, comme le disait Goldman, faire un bébé toute seule et lever un géniteur. Et en fait, c'est une tactique de femme diplômée. Je connais au moins trois filles.
Méfiez-vous de la femme diplômée.
Alors,
je
connais trois filles.
Pour Jean-Loup, c'est méfiez-vous des femmes tout court. Je pense qu'il est terrorisé par la gente féminine, ce garçon.
Pas du tout, j'ai trois amis qui ont fait de très belles carrières et qui ont toutes eu un enfant. Sans être marié, sans compagnon, et qui ont utilisé la stratégie du bar ou de la boîte de nuit. Et ça a marché. D'ailleurs, je m'en réjouis, je les félicite.
Donc, la tactique
lituanienne marche, mais
c'est des belles anecdotes.
Un peu plus âgé.
Charles, tu allais en boîte de nuit quand tu étais
petit. Je me réjouis de ce réarmement démographique.
Bien sûr, j'allais en boîte de nuit, j'adorais ça, moi. Non, ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est la tendance à ne pas faire d'enfants, y compris, je vois dans ma génération, des jeunes femmes pour lesquelles tout va bien, qui ont un boulot, qui sont bien portantes. Il y a aucun problème, mais voilà, elles décident qu'ils sont en couple, mais elles veulent pas faire d'enfants.
Ils sont deux quand même.
On le voit dans les chiffres.
Oui, mais je remarque que c'est souvent une décision. C'est souvent une. Par exemple, je parle de cas où le couple est postérieur à cette décision, si tu veux. C'est-à-dire qu'elles ont acté, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, moi j'aimerais bien savoir, vers l'âge de 30-35 ans, que de toute façon, elles ne feraient pas d'enfants, parce que ça ne les intéresse pas. Et moi, j'ai plusieurs cas dans ma génération, je vous dis encore une fois, de femmes qui ont un profil qui fait que, je pense qu'à la génération précédente, elles auraient fait des enfants. Donc je trouve ça assez curieux, et je pense qu'entre ça, qui donc, enfin, je veux dire, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on a comme vie après si c'est indéfiniment sortir avec ses copains, boire des coups en terrasse, et passer un certain âge, c'est quand même un peu triste et un peu ridicule
si,
quand même.
Si je peux me permettre.
Donc entre ça et les jeunes qui effectivement de plus en plus n'ont plus de contact réel avec leur prochain, mais n'ont plus que des contacts virtuels. On va effectivement vers une humanité très réjouissante.
Non, mais ça va être un problème numéro un. D'ailleurs, on n'entend pas beaucoup les responsables politiques. On verra. Pendant la campagne, ça sera un sujet. Mais quand même, le problème numéro un, ça va être la natalité. Parce que tout notre système, nous, de redistribution sociale, repose sur le renouvellement des générations.
Pour répondre à Charles, t'as quand même, et c'est socialement démontré, tu as des anthropologues qui en parlent, des sociologues qui en parlent. Si tu veux, tu as une équité dans le couple quand il n'y a pas d'enfant qui est plutôt égale. C'est-à-dire que tout le monde se partage à peu près les tâches, etc.
Et tu ne vas pas refuser de faire des enfants pour avoir une équité dans les tâches ménagères dans le couple.
Non, c'est pas ça que je te dis. C'est que quand l'enfant. Pourtant, c'est prouvé, démontré, et il y a même des IRM qui ont été faites sur des jeunes papas, etc. Et en fait, quand l'enfant arrive, l'homme automatiquement repart du principe que intrinsèquement, le rôle de la femme est à la maison. Et en fait, si tu veux, tu as une disparité qui se crée. Donc, quand autour de toi, tu as vu des femmes qui étaient super actives, qui avaient leur vie, qui arrivaient à jongler entre le boulot, la vie de famille, etc., et que tu te rends compte qu'à partir du moment où elles sont devenues maman, tout s'arrête. Ça peut-être refroidir. Moi, c'est.
Pas ça. Attendez, Renaud a une anecdote à nous raconter. Il est du côté de la Gironde. Bonjour, Renaud.
Bonjour, Yvan Gueule.
Bienvenue. La boîte de nuit, vous y avez rencontré votre épouse?
Ouais, c'est ça. C'était en 2006. J'ai rencontré ma femme en boîte. On avait des amis en commun. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça. Et là, ça va faire 20 ans cet été là, qu'on est ensemble.
Eh ben, félicitations.
10 ans de mariage.
Bravo.
Et 2 enfants.
Donc, en fait, une rencontre en boîte de nuit, c'est pas seulement la rencontre d'un soir.
Non, c'est ça exactement. Bon. Et puis même d'ailleurs, en parlant de la natalité, je pense que mon fils a été fait un soir de chic en retour de boîte. Et
Alors écoutez, Renaud, c'en est pareil pour ma fille. Ma fille a été conçue exactement
dans les mêmes circonstances. Chez Renaud, c'est son romantisme.
Mais non, puis bon, au final, ça a fonctionné. Donc après, je pense qu'on n'est pas les seuls.
Vous êtes encore assez jeune et ça vous arrive de nouveau de sortir en boîte de nuit ou pas, Renaud?
Sa femme.
Non. Depuis qu'on a eu notre premier enfant, on a complètement décroché après.
D'accord. Et autour de vous, il y en a encore qui sortent ou pas?
Non.
Vous avez quel âge, Renaud?
C'est une mode qui a passé. J'ai 36 ans.
Ouais, c'est ça. Mais ça a passé.
Moi, je sors encore.
Oui, mais pas en boîte de nuit, si.
Bah, si.
Oui, mais avec tes copines,
bah
pas pour faire des rencontres.
Ah bah non.
Et donc, ça n'a rien à voir avec le sujet.
Bah si, parce que Renaud, il dit qu'ils ont fait des enfants. Peut-être pas lituanienne.
Mais non, mais le sujet, c'est est-ce que quand tu as 20 ans, entre 20
vous
et 25 ans.
Mais il était sorti depuis.
Ou 20 ou 30 ans.
Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que la baisse de la natalité est un phénomène mondial.
Mais Renaud, quand vous alliez en boîte de nuit, c'était pour draguer, effectivement.
Non, pas spécialement. À l'époque, moi, j'étais quand même assez timide, donc c'est juste que ça s'est fait comme ça, en fait. Mais non, c'est pas pour. C'est pas dans le but de trouver quelqu'un.
Alors, Renaud, on va être avec Jérôme qui est du côté du Morbihan. Bonjour Jérôme.
C'est la boîte de musique pour Renaud.
Jérôme, est-ce qu'il faut relancer les boîtes de nuit pour avoir des rencontres, des couples qui se créent, qui se forment et des enfants? Alors dites-moi.
Bah, je pense que ça va être compliqué à relancer. Moi, ce que j'ai pris comme exemple quand j'ai appelé au standard, moi j'ai un fils qui a une vingtaine d'années et en fait ils ont changé absolument leur logiciel de faire la fête, quoi. C'est-à-dire que aller en boîte de nuit, payer un verre 15 €, ne plus pouvoir rentrer parce que on a dépassé le taux d'alcoolémie et toutes les contraintes. Oui, eux, ils ont trouvé la solution. C'est-à-dire que quand ils ont envie de faire la fête, alors c'est pas forcément pour draguer ou quoi que ce soit, quoi, c'est que ils se louent une petite maison en Airbnb, ça leur coûte 10 balles chacun, ils achètent un peu d'alcool, un peu à bouffer, excusez-moi de l'expression, Et en fait, ils font des fêtes, mais autrement, quoi.
Donc, oui, mais ils font des fêtes.
Ils mettent la playlist sur un ordi.
Le problème, c'est qu'ils se font entre eux, ils se connaissent déjà. Parce que l'intérêt d'une boîte de nuit, c'était de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. C'est aller vers l'inconnu. Là, si vous êtes avec la même bande de potes, c'est pas avec cette bande de potes, vous allez faire des enfants.
Vous savez comment ça se passe dans les bandes de copains. On amène une copine qu'on connaît pas, un autre copain qui. Mais c'est une autre façon de faire la fête. Mais de toute façon, les jeunes, même pas. Bah, excusez-moi, mais vous allez en boîte de nuit, vous en avez pour 15 balles pour verre un pot au whisky ou mangou, sucer des glaçons puisque vous buvez du whisky.
Oui, mais ce qui a disparu, pardon de vous contredire, Jérôme, mais moi je pense que ce qui a disparu aujourd'hui, c'est quand on est en boîte de nuit, on a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas, c'était un peu l'inconnu, etc. Maintenant, effectivement, peut-être que dans cette nouvelle génération, on veut rester entre soi, ses amis, voilà, il y a une espèce de truc cocon, un peu, c'est plus rassurant. Alors, en boîte de nuit, on se retrouvait avec des gens, pas qui on allait sur qui on allait tomber.
Ouais, mais je pense que les jeunes ont une autre vision de la, maintenant aller se mettre minable comme nous on faisait excusez-moi du terme, mais moi j'ai eu 20 ans aussi, aller aussi pour se mettre à l'envers et
on y ça a aidé ça a aidé à draguer.
Voilà, on allait faire la fête quoi. Maintenant les jeunes ont une autre vision de la fête.
Ils se mettent minables aussi dans des logements Airbnb hein.
Ouais, mais au moins ils sont sur place, ils prennent pas la voiture.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Pas d'accident.
Oui,
c'est vrai. Et moi quand j'entends mon fils qui me dit je pars en week-end, on fait la fête ce week-end.
Préférez qu'il reste au même endroit.
Je suis plutôt rassuré de le savoir dans une maison où personne prend la voiture, où les clés sont sous clé pendant tout le week-end, et qu'il redécolle le dimanche soir, que de me dire il part en une boîte de nuit.
Mais justement, quel âge il a votre fils, Jérôme?
Il a une trentaine d'années maintenant.
Ah ouais, et il est marié, pas d'enfant.
Marié et des enfants, si.
Ah, marié et des enfants. Ah, il continue de sortir et de s'éclater avec ses copains.
Mais ouais, voilà. C'est, ils sont toute une bande de couples, de jeunes couples dynamiques, hein. Ils bossent, ils sont animateurs sportifs, pas d'accord. Mais, c'est plus comme nous, on le faisait à 20 ou 25 ans, où moi j'étais saisonnier aussi dans la restauration, où on n'avait pas fini notre service, où on levait notre tablier, qu'on était déjà prêt en boîte de nuit et jusqu'à 6 heures du matin. Et les jeunes ont surpas, moi quand je les écoute parler entre eux, je trouve qu'ils ont plus du tout la même façon de voir les choses que nous, quoi. Eux, ils se font leur petit week-end, je l'entends dire, ils sont contents de savoir, ils ont loué une maison.
Du coup, ils vont pas faire d'enfants.
Jérôme et Renaud, merci d'avoir partagé vos expériences personnelles. Relancer la natalité, multiplier les boîtes de nuit, oui ou non, oui ou non, oui ou non. Qu'est-ce que vous en dites? Vous dites non, ça relance pas la natalité.
Une boîte de nuit dans la banlieue de Vilnius, en Lituanie. Je sais pas si ça.
J'aimerais bien savoir c'est quoi la musique lituanienne.
Ouais, la musique lituanienne.
Oh, je pense
c'est
que
c'est
américaine.
Un bruit de marteau-piqueur. Très industriel.
Tu vois le bruit des marteaux-piqueurs qu'il y a devant l'immeuble. Ça, c'est leur
bonjour,
musique classique.
Bonjour, Estelle Denis.
Salut.
Alors là, on va avoir un procès avec l'ambassade.
Salut les GG. On va évidemment parler des carburants avec cette proposition de Sophie Binet. 1,70€ prix maximum. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ça? Bah, écoutez, vous nous dites tout dans un instant au 32-16. On reviendra sur cet accident mortel ce matin, un passage à niveau près de Lens, dans le Nord. Est-ce qu'il faut supprimer les passages à niveau? Il y a des accidents mortels absolument tous les ans. Voilà, on sait que c'est mortifère. Il y en a 15 000. Il y en a 15 000 en France. Oui, c'est souvent évidemment une
imprudence.
Oui, mais tu peux aussi avoir un malaise. En tout cas, c'est hyper dangereux.
Aujourd'hui, c'est un camion militaire.
Là, c'est un camion militaire.
En 2026, on pourrait supprimer les passages à niveau, non?
Enfin, ouais, pas
dans un pays moderne.
En fait, faire des tunnels en dessous.
Ah, c'est vrai qu'on a plus d'argent.
Voilà, mais ça coûte beaucoup d'argent. En tout cas, on en parlera à midi et demi.
Moi, il était en travers, le camion militaire.
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, Alain. Là, l'enquête se poursuit. Nous parlerons également de cette idée d'Edouard Geffray. Vous savez, c'est notre nouveau ministre de l'Éducation nationale. Et lui, il plaide exactement pour un concours général au collège pour récompenser les élèves les plus méritants. Vous savez, c'est ce qui se fait déjà au lycée.
C'est ce qui se fait déjà au lycée.
Prenez les meilleurs élèves d'un collège et puis il faut une compétition. Et à la fin, le meilleur gagne. Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Les syndicats sont contre. Hein. Les syndicats sont contre. C'est le retour de l'élitisme. Donc on en discutera.
Compétition, c'est mal.
Bonne idée. Exactement. Bonne idée. Il vaut mieux niveler, bien sûr, par le
bas.
Et puis on parlera de l'ouverture.
Qu'on a eu son avis.
On parlera de l'ouverture de la foire du trône. C'était la semaine dernière. Oui. Mais pour vous, les fêtes foraines, est-ce que c'est du plaisir ou est-ce que c'est surtout une grosse arnaque? Ça, ce sera à 14h.
On salue nos amis forains.
Oui, on les adore.
Ne ratez pas l'avis de Daniel Riolo sur le sujet des fêtes foraines.
Moi, j'adore.
Il n'est pas hyper fête foraine.
Moi, j'adore les forains.
Moi, j'adore, moi aussi.
Oui, alors je sais pas s'il aime les forains, mais en tout cas, il n'est pas très fête foraine.
Tu vas manger les pommes d'amour, les churros.
Comme dans les séries américaines.
Ce sera des autotamponneuses.
Il y en a encore des autotamponneuses.
Bien sûr.
La maison de l'horreur,
j'adore.
Moi, j'aime le truc à pièces. Vous savez, vous mettez une pièce, ça fait tomber les autres pièces.
Bien sûr.
Tu as déjà gagné à ça?
Bah, un petit peu, mais jamais trop.
Non.
Bah,
après, c'est comme la main pour attraper les peluches.
Ah, ça, je suis nul, la pince.
Ouais, j'ai jamais.
Il paraît qu'ils mettent du savon noir pour pas que tu puisses attraper avec le grappin.
Il y a des légendes là-dessus.
Ouais, moi, j'ai vu ça.
Bon, alors.
Ah, mais tu préfères.
Le tu préfères.
Tu préfères estival, barbecue ou plancha?
Barbecue.
Barbecue.
Plancha.
C'est pas mal.
Moi, je suis plutôt plancha parce que je suis plus poisson. Et à la plancha, le poisson, c'est meilleur.
Barbecue. Et au charbon, s'il vous plaît.
Gambas. Oh, bah non, au gaz.
Au charbon.
Au gaz de schiste.
Bah, au gaz.
Au gaz de schiste. Allez, bonne émission.